chance de...
Mercredi 15 avril, bonjour à toutes, bonjour à tous. Thérèse Davila, encore et toujours. Notre série avec Christiane Rancet continue. Aujourd'hui, troisième épisode, une sainte pas comme les autres. Et puis en deuxième partie, en compagnie de Félicie Dubois, on parlera de Jane Bowles à l'occasion d'un livre qu'elle lui consacre et qui vient de sortir au Seuil. Thérèse Davila, une femme de foi et d'action, notre série de la semaine avec l'essayiste Christiane Rancet qui lui consacre une biographie chez Albin Michel. Aujourd'hui, troisième épisode, une sainte pas comme les autres. Cette fois-ci, elle est habitée par la foi, Thérèse.
Oui, alors elle a donc eu cette révélation.
À quel âge à peu près?
Elle a 41 ans. Donc effectivement, elle a
eu le temps de vivre.
Elle a eu le temps d'être aimée, d'aimer, mais elle a quand même vraiment lutté pour rencontrer Dieu. Elle lutte parce qu'elle aimerait aussi pouvoir pleurer. Elle lutte pour avoir de la compassion et elle a cette révélation, donc cette découverte extraordinaire de cet amour et elle veut le rendre. Donc Thérèse va tout d'un coup, à l'intérieur même du couvent, devenir quelqu'un qui va être extrêmement généreux et lumineux pour son entourage, c'est-à-dire qu'elle va faire découvrir aux jeunes religieuses qui sont autour d'elle ce qu'est l'oraison. Elle va énormément lire à partir de ce moment-là. Elle va avoir une deuxième conversion, une deuxième révélation, on va dire. En tout cas, sa conversion va être ancrée dans une deuxième révélation. Elle va lire les confessions de saint Augustin, qui viennent d'être imprimées là encore en castillan. Et elle va découvrir effectivement cette phrase extraordinaire « Tu ne me connaîtras pas si tu ne te connais pas toi-même ». Donc à partir de là, elle va prier, elle va, entre cet abécédaire, ce traité d'oraison de Francisco de Osuna, entre les confessions de saint Augustin, elle va se mettre à prier pour aller encore plus loin dans sa conversion et pour rentrer en rapport avec Dieu, parce que c'est une femme extraordinaire d'action et elle a une devise extraordinaire, elle dit toujours « ir adelante », en avant, que Rimbaud reprend en disant « en avant, route ». Voilà, elle, c'est en avant, quand elle dit « il faut prier avec détermination », elle rajoute « avec une détermination déterminante », c'est dire que c'est une femme qui est toujours dans un mouvement et rencontrer Dieu, c'est-à-dire être tout d'un coup tout à fait... Avoir effectivement la foi ne lui suffit pas, elle veut lui parler, elle veut le rencontrer et elle s'aperçoit que cette rencontre ne peut se faire qu'avec des images et à partir d'images qui représentent les mystères du christianisme, c'est-à-dire la naissance, Dieu fait homme, le moment du baptême. D'abord le moment de la naissance, le moment de la présentation au temple, le moment du baptême par Jean-Baptiste et effectivement le moment de la passion et la mise en croix. Donc à partir de ces représentations d'images, ce qui va être aussi très important parce que l'image à ce moment-là est très contestée, elle l'a été très contestée au moment de la présence mort en Espagne. Évidemment, les images étaient interdites. Elles sont aussi interdites dans la religion juive, qui a été très présente aussi en Espagne. Et là, elle va remettre et elles sont interdites par la réforme et par le mouvement luthérien qui donc, vous savez, ne supporte pas toutes ces images et toute cette bimbeloterie. Donc elle va se servir de ces images pour rentrer en oraison, comme elle le dit elle-même, pour regarder comme si on regardait l'image d'un aimé. Aujourd'hui, une photo, quand on veut aimer quelqu'un, on regarde son portrait. Et à partir de là, méditer sur ces mystères pour rentrer en oraison. Et elle va mettre, on va dire, l'une des premières, une méthode de méditation et de réflexion et d'entrée en soi pour arriver à rencontrer Dieu. Et elle va être absolument exemplaire pour toutes ces jeunes religieuses et commencer à créer tout un mouvement autour d'elle qui va lui donner la réputation effectivement d'être une sainte. Mais en même temps, elle ne veut absolument pas être une de ces jeunes femmes qui prient comme d'habitude. Elle a ce mouvement féminin en elle qui demande à ces jeunes femmes d'être libres, d'être joyeuses, de se défaire de toutes les mondanités, de se défaire de toute l'éducation qu'elles ont reçue, pour se saisir absolument elles-mêmes.
Et alors justement, Christiane Rancet, est-ce qu'elle est exemplaire, Thérèse d'Avila, à ce moment précis, ou est-ce qu'elle est déjà révolutionnaire ?
Elle est révolutionnaire dans la mesure où elle va contre le mouvement de son époque, effectivement ses mondanités, le fait de cette règle mitigée, de ses
pas
monastères.
Pas seulement, il y a aussi l'inquisition qui s'installe.
Et elle est révolutionnaire parce que elle va effectivement commencer à prier et à prôner cette intériorité, cette foi intérieure, au moment où il y a un mouvement qui s'appelle les Alumbrados, qui est persécuté, enfin qui est pourchassée, poursuivie par l'Inquisition. Donc, d'une certaine façon, elle va commencer à vivre son aventure intérieure. C'est là où elle va avoir ses extases, c'est là où elle va commencer à avoir ses visions, c'est à ce moment où elle va avoir ses colloques avec Jésus, elle va entendre Dieu lui parler, elle va léviter, elle va avoir ses lévitations, elle va rentrer dans des moments de prière absolument extraordinaires, et en même temps, elle est très, très critiquée par son entourage, parce que son ascèse ne plaît plus du tout. Toutes ses bonnes sœurs, toutes ces nonnes qui vivaient de façon très, très sympathique leur mondanité, trouvent que l'exemple qu'elle veut donner, ça ne leur plaît pas du tout. Les mortifications, l'ascèse, la prière, on va dire 16 heures par jour, donc vont commencer à l'accuser de sorcellerie et d'être habité par le démon. Donc il va y avoir effectivement un très grand courage chez Thérèse d'Avila parce qu'elle va continuer dans sa voie en sachant très bien qu'elle risque d'être dénoncée et elle sera poursuivie longtemps auprès de l'Inquisition comme étant habitée par le démon. Il y a eu à cette époque des cas très célèbres de jeunes femmes qui ont fait semblant de fausses mystiques, qui ont fait semblant pour recevoir des dons, qui ont fait semblant de parler avec Dieu, et dont on s'est rendu compte que c'était une imposture. Donc, elle est très intelligente, d'abord parce qu'elle va continuer à travailler ses extases et sa foi de sa façon très particulière, mais elle ira toujours chercher, elle demandera à soumettre tout ce qu'elle vit à un directeur de conscience, en sachant très bien qu'elle risque d'être effectivement accusée de sorcellerie, ou de blasphème, ou d'hérésie. Mais quand elle sent que le directeur de conscience qu'elle a en face d'elle est peut-être pas si, on va dire, cultivé, si intelligent que ça et si perceptible à sa mystique, elle demande à en rencontrer un autre. Donc elle s'échappe du couvent, elle va chez une grande amie qui s'appelle Donia de Guillaumard, qui habite juste à côté des pères jésuites, du monastère jésuite, et elle va rencontrer des directeurs de conscience à qui elle expose effectivement sa foi jusqu'à ce qu'elle puisse, et elle va leur demander de rencontrer les deux grands saints de l'époque, qui sont Pierre d'Alcantara, qui est un franciscain qui vit une ascèse, qui est comme un soufi, on va dire, aujourd'hui en Inde. C'est très exactement ça. Il marche pieds nus, il vit quasiment dans le froid, sous une espèce de toile de jute. Il est une figure mystique extraordinaire pour cette Espagne, qui vit dans une effervescence religieuse extraordinaire. Et en même temps, elle va demander à rencontrer Saint François de Borgia, qui est le petit-fils du pape Borgia, dont on a entendu parler, qui a renoncé absolument à tous les biens de ce monde, et qui, tous les deux, donc, décident qu'effectivement, les grâces et les extases qu'elle reçoit, c'est Dieu qui les lui envoie, et absolument pas le démon.
Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est progressiste, Thérèse d'Avila? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait faire?
Alors, elle est progressiste dans la mesure où il y a une très très jolie citation de Rimbaud que je mets en exergue du livre.
Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu.
Elle a trouvé de l'inconnu en Dieu. En même temps, elle va être poète parce qu'elle va écrire, et elle va écrire de la théologie, ce qui est parfaitement interdit. Et elle sera d'ailleurs inquiétée par l'Inquisition pour cette raison, où on cherchera à savoir si ce qu'elle a écrit est un précis de théologie, parce que c'est tellement incroyable, c'est tellement surréaliste, ce château intérieur, ce livre de la vie, ces chemins de perfection, qu'on est effectivement obligé d'étudier les textes pour savoir si elle propose quelque chose de nouveau ou si elle ne propose pas quelque chose de nouveau.
Et pour reprendre, bien sûr, Simone de Beauvoir dans son essai « Le deuxième sexe », Thérèse d'Avila a porté au point le plus haut les vertus qui conviennent à son état. Elle peut émerger par là la condition ordinaire d'une religieuse. Elle voyage, entreprend, persévère avec le courage aventureux d'un homme. Elle manifeste avec éclat qu'une femme peut s'élever aussi haut qu'un homme quand, par un hasard étonnant, les chances d'un homme lui sont données.
Absolument. Donc c'est pas un hasard si Thérèse d'Avila a été effectivement une référence pour toutes les grandes féministes. Donc vous venez de citer Simone de Beauvoir. Elle a été aussi une référence pour Marguerite Yourcenar. Marguerite Duras va reprendre un texte, va se fonder sur elle pour écrire son Les Extases de Lol, La Passion de Lol, pardon, mais aussi de très très grands écrivains. Verlaine va tomber fou d'amour de Thérèse d'Avila en lisant son Château intérieur, et il prendra sa défense de façon virulente contre Flaubert, qui avait trouvé qu'elle était mais emmerdante à un point infini. Et Pierre Jean Jouve va faire référence à Thérèse d'Avila, et Georges Bataille. Georges Bataille, qui est quand même un érotomane affirmé, quand Thérèse d'Avila va être soupçonnée d'hystérie par tout le courant de freudien et par la psychanalyse, Georges Bataille va prendre sa défense en disant que c'est une aberration de penser que l'extase de Thérèse d'Avila et ses états extatiques sont effectivement une pathologie. Ça n'est pas une pathologie, c'est une expérience mystique vécue avec le corps. Et c'est en ça que Thérèse d'Avila est extraordinaire.
Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Brigitte Fontaine d'ailleurs.
Et Brigitte Fontaine, effectivement, a écrit une très très belle chanson qui s'appelle « Le château intérieur ». Et ce sont, très curieusement, les gens qui sont le moins dans la religion, je ne sais pas si Brigitte Fontaine est dans la religion, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont été les plus libres dans leur expression poétique et artistique, qui sont revenus vers cette femme qui traduit une expérience intérieure, mystique, et plus que mystique, puisque c'est une mystique qui passe par le verbe, par l'écriture et par l'expérience artistique aussi.
Demain, Thérèse d'Avila va quitter son couvent, et cette fois-ci, elle va y aller, elle va voyager. Est-ce qu'à cette époque-là, elle est déjà connue par ses écrits ?
Alors, elle a écrit effectivement à cette époque-là le livre de la vie, puisque elle craint toujours que son expérience soit mal considérée, et en même temps, elle intéresse ses directeurs spirituels, puisque l'Espagne du XVIe siècle veut, Philippe II d'Espagne à ce moment-là, veut faire de l'Espagne une fabrique de saintes. Donc il veut montrer que le peuple espagnol est le peuple christophore, c'est celui qui porte la religion, la foi catholique de la façon la plus incandescente, et il veut qu'il y ait des saintes et des femmes qui racontent leur expérience. Et Thérèse d'Avila va être la première, ou une des premières, d'une longue série de religieuses qui vont écrire sous contrôle la relation de leurs expériences mystiques.
Suite de notre série Thérèse d'Avila, une femme de foi et d'action, demain à la même heure. À demain, Christiane Rancé.
À demain. Divina humanita, et trae gentil, trae stella.
son désir soit de voir Dieu, la crainte de le perdre, ta douleur de ne pas le posséder, ta joie de ce qui peut te conduire à lui, et tu vivras dans une grande paix.
Florilège de citations de Thérèse d'Avila, lu par Brigitte Fontaine.
France Culture. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Et l'invité de ce matin est Félicie Dubois, qui sort aux éditions du Seuil une histoire de Jane Bowles. On connaît tous Paul Bowles, l'auteur d'un thé au Sahara, mais on connaît beaucoup moins son épouse, qui a été sa complice durant ses voyages, durant même ses écritures à lui, et qui a sorti quelques livres que vous pouvez d'ailleurs lire, puis ils sont tous traduits en français chez Christian Bourgois. Et donc, Félicie Dubois, Jane Bowles est un grand auteur toujours méconnu d'après vous.
Oui, en fait, dans le couple, c'était elle l'écrivain.
Ouais.
Lui était, selon une expression de Daniel Rondeau, un écrivain péripatéticien. C'est-à-dire qu'en fait, il écrivait pour se donner la liberté de voyager. Sa vraie vocation à lui, à Paul, c'était le voyage. Or, quand on écrit, on est effectivement très libre. Il suffit d'un papier, d'un crayon, et hop, on peut faire le tour de la planète sans avoir de compte à rendre à personne. Surtout quand on se débrouille pour épouser une jeune femme qui, par sa dot, va permettre, dans les premières années en tout cas, un tel confort. À l'époque, nous sommes dans les années 40, essentiellement. Ils se sont mariés en 37, mais l'essentiel de leur grand voyage en commun, c'est les années 40 et 50. Il n'y a pas le phénomène du tourisme qu'on connaît aujourd'hui.
Et encore moins à Tahrit.
Exactement. Ce sont vraiment des voyageurs, c'est-à-dire des gens qui partent, mais sans savoir quand ils vont revenir, et surtout qui peuvent s'installer de longs mois, voire de longues années, dans les différentes étapes de leur long voyage. Et le voyage devient finalement un but en soi.
Alors, pour revenir à Jane Bowles, elle est l'auteur d'un roman, de Dames sérieuses, d'un recueil de nouvelles que vous nous recommandez, Plaisir paisible, et d'une pièce de théâtre, Sa maison d'été. Donc, finalement, elle n'a pas beaucoup écrit Jane Bowles.
Alors, elle écrivait tout le temps, mais elle a très peu publié parce qu'elle se corrigeait sans cesse. Elle n'était jamais satisfaite du résultat, et elle avait une écriture bonsaï, quoi. C'est-à-dire qu'elle taillait ses textes comme on taille un bonsaï. Il fallait que ce soit que la forme soit parfaite. Et elle a jeté des milliers et des milliers de pages. Paul, heureusement, en a récupéré certaines, parce que sinon on aurait encore moins de traces de son immense talent s'il ne l'avait pas fait. Il a anticipé sur le fait qu'hélas, ça n'irait pas en s'améliorant. Sa difficulté à écrire n'est pas allée en s'améliorant. Enfin, sa difficulté à écrire a été de pire en pire avec les années. Et donc, dès qu'il pouvait, il conservait ce qu'elle écrivait, parce qu'elle, en revanche, le déchirait et le mettait au feu.
Alors, comment êtes-vous arrivée à Jane Bowles, Félicie Dubois? Je crois savoir, puisque vous êtes déjà l'auteur d'un livre consacré à Tennessee Williams. Et Tennessee Williams considérait Jane Bowles comme un des auteurs majeurs de cette partie du siècle, du 20e siècle américain. On se pose la question, est-ce que c'était l'auteur qui voulait honorer ou l'ami, la femme qui trouvait génial? Et vous avez justement écrit un livre où vous mêlez aussi bien l'histoire de la femme, du personnage, avec l'histoire de l'écrivaine. Et vous dites d'ailleurs, Jane Bowles est un personnage de Jane Bowles.
Tout à fait. C'est pas le cas de tous les écrivains. Certains écrivains ont leur œuvre Et il suffit de la lire, et on n'a pas besoin d'avoir tout l'appareil biographique pour pénétrer dans l'œuvre. Pour Jane, et pour d'autres écrivains, qui sont généralement ceux qui sont le plus chers à mon cœur, il faut ajouter la vie de l'auteur à son œuvre, parce que c'est intimement lié. Sa vie, c'était son écriture, et son écriture a influencé sa vie. C'était complètement intriqué. Et donc Tennessee aimait les deux. Il a d'abord rencontré la jeune femme, puisqu'à l'époque, elle était la jeune épouse de Paul Bowles, en train d'écrire son premier roman, Deux dames sérieuses. Ils se sont rencontrés au Mexique, à Acapulco, et lui était un jeune auteur, un peu SDF sur les bords, qui dormait sur les canapés des copains, qui n'avait pas encore écrit les grandes pièces qui feront de lui l'immense star qu'il a été pendant trois décennies. Et ça a été un coup de foudre amical. Ils se sont tout de suite, mais en un clin d'œil, en une soirée, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Et ça a été une amitié d'une grande fidélité, d'une grande intensité. Et Tennessee est probablement le seul à avoir vraiment accompagné Jane Bowles, qui a été tout au long de sa vie une femme très seule.
Alors parlons justement de l'œuvre de Jane Bowles, disponible en France, donc traduite en français. Deux dames sérieuses, ça raconte quoi ce roman ?
C'est très difficile comme question, et pourtant c'est nécessaire d'y répondre un petit peu. Ça raconte l'histoire de deux femmes d'un milieu bourgeois aisé, de la haute bourgeoisie, qui, chacune à sa manière, va aller au bout de ses désirs. La première, ça passe par la vente de sa grande propriété magnifique pour atterrir dans une toute petite bicoque moche, mal chauffée, de laquelle elle s'évade le plus souvent possible pour aller traîner dans des rades sinistres où elle se donne à des hommes pour une nuit, des aventures sans lendemain, et elle se détruit dans cette espèce de quête qui n'a a priori aucun sens. Ça n'est jamais érotique, j'insiste. C'est très... c'est pas glauque, c'est parfois sordide, mais ça n'est jamais érotique. C'est simplement une femme qui est aspirée par la déchéance. L'autre part en voyage de noces avec son mari au Guatemala et tombe amoureuse d'une prostituée dans les mauvais quartiers. C'est à Panama, pardon. Dans les mauvais quartiers du port, et elle abandonne son mari, elle le laisse continuer le voyage de noces tout seul, et elle reste vivre avec la prostituée dans un petit hôtel miteux. Et à la fin du roman, qui est donc en deux parties très distinctes, à la fin du roman, ces deux femmes qui étaient amies au début du livre se retrouvent pour constater qu'elles ont été l'une et l'autre au bout d'un désir c'était même pas une quête de plaisir, au bout d'un désir aller voir jusqu'où on peut aller trop loin. Voilà, elles ont voulu aller voir jusqu'où elles pouvaient aller trop loin, et le résultat est-il intéressant ou au contraire complètement vain?
Est-ce que Deux dames sérieuses, ou même le recueil de nouvelles qui suivra, Plaisir paisible, ou la pièce de théâtre, Sa maison d'été, ont été bien accueillies, ont eu un succès aux États-Unis?
Quand le roman est sorti, pas du tout. D'abord parce qu'on a considéré, les critiques ont considéré que ça n'était pas un roman. Ça n'est pas narratif. Enfin, ça n'est pas vraiment narratif. En tout cas, ça n'est pas du tout linéaire. Et puis surtout, des tas de situations, des tas de questions sont posées qui ne sont jamais, auxquelles on ne répond jamais. L'auteur ne répond jamais aux questions qu'elle pose. Les personnages sont eux-mêmes irrésolus. On ne sait pas très bien ce qui les gouverne. On ne sait pas très bien le pourquoi du comment. On est là, on partage une expérience à laquelle finalement on n'a pas le mode d'emploi. C'est à nous de nous faire notre propre idée.
Et c'est la même chose pour les nouvelles ?
Alors, les nouvelles, c'est différent d'abord parce que la forme de la nouvelle se prête mieux à ce genre d'écriture en suspension. D'un roman, on attend quand même
un développement,
voilà,
une chute,
et puis arriver quelque part.
Oui,
voilà.
Une dramaturgie avec un début, une fin. Quoi.
Alors que la nouvelle, l'art de la nouvelle, justement, c'est de nous laisser bien souvent, les plus belles nouvelles sont celles qui nous laissent en suspension à la fin. Donc pour ça, Jane est parfaite, parce que c'est ce qu'elle sait faire le mieux. L'ellipse, la suspension, l'écriture oblique. Et dans les nouvelles, on saisit probablement mieux son art que dans son roman, qui pourtant est excellent. Mais
qu'est-ce qu'on saisit le mieux ? Plutôt la femme, l'auteur, plutôt l'époque, plutôt l'Amérique de cette époque-là ?
Pas du tout l'Amérique de cette époque-là.
Elle a été ouverte au monde.
C'était un pays qui... Elle n'aimait pas les États-Unis. Elle est née à New York, mais elle n'aimait pas les États-Unis. Elle a adoré le Maroc. Elle a beaucoup aimé le Mexique, où elle a longtemps séjourné également quand elle était jeune. Elle aimait l'Europe. Elle aimait Paris. Elle n'aimait pas du tout les États-Unis. Donc, c'est pas Carson McCullers, qui pourtant a exactement le même âge qu'elle. Elles sont nées en février 1917, toutes les deux. Donc, on n'est pas du tout dans une ambiance d'écriture américaine de cette époque-là.
Et enfin, pour sa maison d'été, la pièce de théâtre, de quoi ça parle ?
Alors là, c'est encore une histoire de... Les histoires de Jane Bowles sont toujours des histoires de femmes, de mères, de sœurs, de cousines. Les personnages sont pratiquement systématiquement des femmes. Là, ce sont deux couples de mères-filles qui se marient exactement en même temps, le même jour, pour échapper l'une à l'autre. Et ça se passe dans des conditions très extravagantes. L'originalité de Jane Bowles fait qu'elle est très difficile à décrire parce qu'il n'y a pas de référent. Il y a eu Jane Bowles. C'est une sorte de génération spontanée à elle toute seule. Il n'y a pas de référence avant et depuis, je n'en vois pas non plus.
Alors, bien sûr, vous le dites d'ailleurs très bien, Félicie Dubois, que c'est très tentant de rapprocher le couple Jane et Paul Bowles de celui formé par ses aînés Zelda et Scott Fitzgerald. Est-ce qu'on peut dire que Jane Bowles a eu une certaine influence dans l'écriture de son mari, Paul Bowles ?
Ah oui, ça c'est indéniable. Et il le disait lui-même, il le reconnaissait volontiers. Et lorsqu'elle est morte, elle est morte bien avant lui, il a cessé d'écrire. Ensuite, il se contentait de recueillir la parole des autres, et notamment des conteurs marocains, puisqu'il a continué à vivre à Tanger. Mais il a cessé d'écrire à la mort de Jane. Et c'est Jane qui était l'écrivain du couple, et Jane l'inspirait énormément. Et il ne s'en est jamais caché. On peut reprocher beaucoup de choses à Paul Bowles, son égoïsme, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent lui être reprochées, qui lui sont reprochées d'ailleurs par les fans de Jane Bowles, qui est une femme qui a beaucoup souffert. Donc beaucoup de gens s'acharnent un peu sur Paul. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de n'avoir pas rendu grâce au talent d'inspiratrice de sa femme.
Merci beaucoup Félicie Dubois. Je rappelle, votre ouvrage « Une histoire de Jane Bowles » est édité au Seuil. Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Vous pouvez réécouter cette émission en passant par le site de franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page d'Un autre jour est possible. L'écoute en ligne, le podcast et toutes les informations concernant nos invités d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Dans un instant, Marc Vancher. Et je rappelle que cette émission est préparée avec Henri Leblanc et Sacha de Persin, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Julien Doumanque. Bonne journée.